Popopienne, popopien, et tous les autres aussi, bonjour. Alors, excellent week-end, hein. Je suis resté à Paris, je me suis promené dans les rues, j'ai fait du shopping. C'est sympa le shopping. En fait, le shopping, c'est quand on se promène dans les rues et qu'on fait des courses, mais sans très bien savoir ce qu'on va choper, justement. Un peu en mode aléatoire, quoi, comme les billes de Flipper. Et donc, je suis tombé par le plus grand des hasards aléatoires sur un coffee shop en plein Paris. Alors, c'est un peu comme les coffee shops à Amsterdam, hein, sauf que ça s'écrit coffee, C-O-F-Y, et puis que c'est à Paris, et puis aussi que l'herbe qu'on y vend a un taux de THC, autrement dit de la molécule du cannabis, quoi, inférieure au seuil imposé par la loi. Et c'est du bio, hein, sans engrais. Alors attention, je ne fais pas de prosélytisme, c'est juste une info, et pour vous dire qu'on démarre la semaine plutôt détendue, ouais. Ça tombe bien parce qu'on va parler de poésie, de bizarre aujourd'hui dans Pop Pop Pop, allez hop,
France Inter.
C'est parti.
Pop Pop Pop,
Antoine de Caunes.
Au menu de Pop Pop Pop, c'est plus... Ah oui, sinon j'oublie, c'est le titre d'un livre fait à partir de listes de courses trouvées dans la rue. Listes qui servent à son auteur, Clémentine Mélois, de point de départ pour raconter des histoires. Le point course, c'est tout à l'heure dans Pop Pop Pop, mais tout de suite, intéressons-nous à celui qui a su capter l'univers du poète et boxeur, Arthur Cravant, pour le retranscrire en BD. Bonjour, Jack Manini, bienvenue dans Pop Pop Pop.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue, je me répète à mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine, bonjour Jacques.
Vous avez chopé ce week-end ?
Non.
Je me comprends. Voilà pour le menu, je laisse à une boxeuse qui est accessoirement la muse de Rico Wells le soin de lancer cette émission.
Bonsoir, c'est Michel Lamy. Pop, 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 c'est parti.
Pop, 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 c'est parti. Jack Manini, ici, il existe une question. Une question qui fait encore plus mal que Mike Tyson qui vous bouffe l'oreille pendant un combat de boxe. Et cette question, c'est... Jack Manini, pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Pour moi, la pop culture, oui, c'est un petit peu la culture de ma jeunesse, la culture à la marge, avec la lecture des comics américains, Strange, Fantax, Marvel, qui m'ont donné envie de devenir dessinateur de bande dessinée le jour et super-héros la nuit. C'est aussi... une identité secrète à préserver. C'est aussi, à l'âge de 12 ans, la découverte du film Big Boss, vous connaissez, avec... Ah, on sèche, non. La pop culture n'est pas...
Big Boss.
Avec Bruce Lee, bien sûr.
Ah.
Ah, attendez, vous parlez du Big Boss avec Bruce Lee. Non, moi je pensais à un film, un dessin animé, moi, qui n'a rien à voir.
Non, Big Boss avec Bruce Lee.
Baby Boss, d'accord. Le dessin animé.
Oui, c'est Baby Boss, ok.
Qui m'a permis de découvrir les arts martiaux, oui, et en particulier de pratiquer la boxe américaine, et beaucoup plus récemment, la Very Box.
D'accord, la Very Box, on va en reparler dans quelques instants.
Mais si vous voulez, je vous proposais de faire une démonstration en direct de Very Box.
Dans le studio ?
Dans le studio.
Ah, je veux bien, moi je fais la description, le commentaire, et je vous laisse...
Avant, c'est quoi la Very Box ? C'est Arthur Cravant qui a inventé ce sport, qui est un sport totalement dévastateur. Il était capable d'anéantir une personne ou de la tuer uniquement avec une pression du pouce, ou lorsqu'il était en colère, de faire écrouler un immeuble. Est-ce que les fondations de la radio sont assez résistantes ?
C'est la maison de la radio, vous plaisantez. Cette maison immémoriale. On en reparle tout à l'heure la Very Box. Pour le stress, je voulais savoir votre définition de la pop culture, et la vôtre me convient tout à fait. Merci Jack Manny. Avant de se plonger dans votre univers et dans celui d'Arthur Cravant, allons faire un détour par le Québec pour écouter le rappeur Loud avec le morceau 56K Tabernac.
Keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speedia. Hello, téléphone au nuevo keeper. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide.
Witness the second coming de la sérotonine. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. Ah, just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier, compte le papier, jamais le même. We eat again, paid, again faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore, sure. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que j'sais faire, c'est faire des records, puis des faire des records. Oh my god. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques? Avec ce genre de flow que mes flots paient chapeau. But I keep the game on lock and that's childproof. I'm back on my bullshit, entouré de des axes chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell that new cheese. Ils pensent tout ce que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un cas, deux paires d'os. Ferme le hublot. La nostalgie au perdant, mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier, compte le papier, jamais les mauvais. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated.
56K, c'est un morceau de Loud. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jack. S'agit-il de Jack Sparrow, de Jack Black, de Jack Long, de Jack Daniels ou de Jack Manini? Oh non, pas Jack Long, pas Jack Long. Réponse avec le pop portrait. Alors un pop portrait, c'est votre portrait, Jack, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charlie Leroux.
Aujourd'hui, nous recevons un auteur, dessinateur, scénariste, coloriste de bande dessinée, un homme modeste qui nous dit « Je n'ai pas une âme d'auteur ou d'artiste avec un grand A ». Alors permettez-nous gentiment de vous contredire avec un grand C. Jack Marini a écrit des histoires qui nous ont entraînés dans le Paris du début du XXe avec Estelle, dans le Japon du XVe siècle avec Tomoe, entre la Révolution russe et la Seconde Guerre mondiale avec la Guerre des Amants, dans le Buenos Aires de l'après-guerre avec le Poids des Nuages et bientôt sous Napoléon III avec la fille de l'Exposition universelle. Il a dessiné des aventures qui nous ont emmenés dans les États-Unis des années 20 entre Polar et Fantastique pour Nécromancie qu'il signe avec Fabien Nuri, passé par ce studio aussi, dans l'Albanie des années 60, suivre les débuts de l'industrie du cinéma pour Hollywood aux États-Unis, ou encore assister à un naufrage pendant la Première Guerre mondiale avec SOS Lusitania. Si tout ça ne témoigne pas d'une âme d'artiste avec un grand A, ou à minima d'un don certain pour les voyages organisés, je veux bien être rebaptisé Christine Angot, prénom composé. Et ce n'est pas son dernier né, hein, consacré au fantasque Arthur Cravant, qui risque de me faire renommer. Je suis assez sereine sur ce dossier.
Merci.
Vous voulez la rebaptiser Christine Angot?
Pourquoi pas?
Non.
Tiens pas. Jack Manini, que faites-vous quand vous ne dessinez pas? C'est indiscret, j'en conviens, mais c'est l'heure de passer à votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série et un jeu vidéo. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur La Jungle Nue, ou en VO A Fist Unknown, écrit par Philippe-Joseph Farmer, paru en 1968. Un roman qui raconte l'histoire de Tarzan et Doc Savage, alias Lord Greenriff et Doc Caliban, tous deux fils cachés de Jack l'Éventreur. Les deux ont le pouvoir de vie éternelle, mais ne peuvent plus avoir de relations sexuelles, sauf en cas d'actes de violence. Vous voulez bien nous en lire un extrait ?
Avec plaisir.
C'est à vous.
C'est un extrait où il a juré à sa femme qu'il lui serait toujours fidèle. Bon. Ma liaison amoureuse avec Kuta était peu conventionnelle, j'en conviens. Kuta, c'est sa panthère noire. Mm-hmm. Je décrirai un jour plus en détail cette étrange relation entre un homme et un félin. Au bout de 3 ans, elle me quitta pour un mâle de son espèce. Je suppose que c'était parce qu'elle ne pouvait pas avoir de petit avec moi. Ou peut-être ne pouvait-elle plus supporter la jalousie de ma femme et craignait que celle-ci ne l'agressât.
Très bien. Vous pourriez ne plus avoir de relations sexuelles sauf en cas d'acte de violence, Jack Manini?
Alors, en fait, Tarzan a quelques problèmes car il a bu un certain élixir de jouvence. Mmh. Et à chaque fois qu'il doit terrasser ou tuer un ennemi, c'est vrai qu'il a une jouissance. Et c'est d'autant plus pénible lorsqu'il a toute une cohorte d'ennemis face à lui et qu'il doit les tuer un à un.
Comment vous êtes tombé sur ce livre et pourquoi est-ce qu'il vous plaît tellement ?
Parce que Philippe Joseph Farmer était un des premiers à introduire le sexe dans la science-fiction. Mmh. On est en plein 68, donc en pleine libération des mœurs. Et là, on retrouve une liberté totale.
Bien.
C'est la véritable histoire de Tarzan, en fait.
Bah oui, évidemment.
Qui a été élevé par les grands singes, donc il est normal qu'il ait très peu d'inhibitions.
Et qu'il ait des pulsions, oui.
Et des pulsions aussi.
Bien. Pour le film Jack Malini, vous avez choisi ceci. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Oh, parlez-moi de pulsions. Alors évidemment, certains l'aiment chaud, hein. Film réalisé par Billy Wilder, sorti en 1959. Alors pourquoi choisir ces deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de compte entre gangsters et qui se transforment en musiciennes pour leur échapper ?
Tout simplement parce que c'est une comédie et c'est peut-être la comédie étalon par excellence. C'est un film de Billy Wilder tourné en 1959. Mmh. Et une bonne comédie, ce que je rêve de faire un jour en bande dessinée, c'est quelque chose qui nous amène dans un monde décalé, c'est-à-dire qui a sa propre logique. Et c'est cette logique entre le monde réel et le monde de tous les jours, mmh, enfin de tous les jours, tout au moins de la comédie, qui va nous faire rire. Et là, c'est vraiment véritablement exemplaire. En plus, il y a le charme de Marilyn Monroe, et il y a surtout Jack Lemmon et Tony Curtis, déguisés en femmes, qui veulent échapper absolument aux gangsters pendant la Prohibition.
Et le mauvais esprit de Billy Wilder.
Juste une petite question, rapidement, il y a une bande dessinée qui vous fait rire ? Une comédie en bande dessinée qui vous plaise ?
Je pense que les meilleures comédies en bande dessinée, ce sont les Astérix, bien sûr.
Vous vous transformez fréquemment en musicienne, Jack Malini, le soir venu ?
Alors non, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne joue d'aucun instrument, je ne chante jamais, même sous ma douche, sous peine...
C'est la seule raison, bien sûr.
Voilà.
Bien, alors je vois que tout le monde s'en tape. Alors passons à la soirée pour la série, vous faites le même choix que Mathieu Chédid et Eddie Izzard, et ce choix, c'est ça. Ai-je vraiment besoin de dire de quelle série il s'agit, Jack Malini ?
Dites-le.
Chapeau melon et bottes de cuir, le premier Bruce Lee. Non, c'est une série créée par Sidney Newman, diffusée en 1961, soit un an après votre naissance. Vous vous rappelez de sa sortie ?
Bien sûr.
Ça vous a traumatisé, votre petite enfance ?
Non, je l'ai vu un petit peu plus tard, à l'âge de 2 ans, pour le temps de tout comprendre. J'ai une grosse préférence pour bottes de cuir par rapport à Chapeau melon. Après, j'ai beaucoup aimé. J'aurais pu citer aussi les Mystères de l'Ouest, mais en fait, c'est du même acabit, puisque à chaque fois, on est dans un genre différent. Sur chaque Chapeau melon et bottes de cuir, ça commence comme un polar ou alors une histoire fantastique, presque de temps en temps de l'ASF, avec une intro à la James Bond. Mmh. Et après, ça se déroule et avec beaucoup d'humour british.
Avec cette fantaisie à l'anglaise. Bien, Jack Manny, continuons cette pop liste avec le jeu vidéo. Et pour le jeu vidéo, vous choisissez le jeu à la bande son la plus stressante du monde, c'est ça. Alors, c'est une vidéo YouTube qui dure 10 heures.
10 heures, je ne savais pas.
Oui, ça s'appelle Pong. Pourquoi avoir choisi Pong, Jack Manny ?
Ça aurait pu s'appeler Ping,
oui,
voire Ping-Pong aussi. Tout simplement parce que je ne suis pas un grand fan des jeux vidéo. Mon père installait des jeux vidéo, des musiques et des flippers dans les cafés. Donc, mm-hmm, dès tout petit, puisqu'on est dans le monde de l'enfance, ici, j'ai commencé à jouer à ce jeu. Mais je préférais de loin lire des bandes dessinées dans mon coin ou jouer au baby-foot.
Bien. Extrêmement stressant,
cette bande-son. Ne le laissez pas en toute l'émission de tête. Alors nous avons le livre, le film, la série, le jeu vidéo. Il ne manque plus que la chanson, et la chanson de Jack Manini, c'est celle-ci. Tra la 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 de bon matin, tra la 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 à la bécasse, tra la 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 la, tra la 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 la. La bécasse, c'est une chanson de Serge Rezvani, sortie en 1976 et reprise par Philippe Catherine en 2007. Pourquoi ce morceau, Jack Manini ?
parce que c'est une belle histoire d'amour qui n'avance qu'avec des onomatopées pratiquement et que j'ai entendu pour la première fois il y a très longtemps sur FIP et j'ai mis des années avant de retrouver qui était véritablement l'auteur.
Mmh. Et cette chanson vous transporte ?
Ah, plus que ça.
Plus que
elle
ça.
Elle nous transcende.
Elle nous transcende. Bien. Alors, je résume. La jungle nue, certains l'aiment chaud, chapeau melon et bottes de cuir, Pong et la mécasse. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Bonjour, chère collaboratrice.
Bonjour, John. Entrez, la porte n'est pas fermée.
Ah, lalda, lalda de bon matin.
Oh, yes, it's a society girl.
Oh, yes.
Lalda, 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 à la mécasse.
Belle journée aujourd'hui.
Yeah, real hot.
Kuta, c'est sa panthère noire.
You're very kind. I bet you're also gentle and helpless.
Au bout de 3 ans, elle me quitta pour un mâle de son espèce. Je suppose que c'était parce qu'elle ne pouvait pas avoir de petit avec moi.
You see, I have this theory about men who wear glasses. I'll tell you when I get to know you better.
Sincèrement, vous n'avez vraiment pas de quoi être fière.
Vous avez tout à fait raison.
Voilà un extrait de la BO de votre vie, Jack Manini.
Je suis enchanté, c'est tout à fait moi.
Vous y retrouvez ?
Oui.
Bien, alors l'émission peut démarrer. Passons maintenant à la BO de la mienne avec le morceau Gentrification, c'est le nouveau Rycooder.
Standing on the corner, spending my time, not of a job, not earning a dime. Lady steps up, says, I suppose you're a stylish young man by the looks of your clothes. She said, trust me and take a little tip. This building's been sold to Johnny Depp. Who? Take the bow, relocate. The Google men are coming downtown, so don't be late. See, this is my apartment. Just a hole in the wall. Got to sleep in the kitchen with your feet in the hall. No hot water, no windows and doors. You gotta make it past all the real estate agents, junkies and hoes. City. Ain't no coffee shops around. I heard them Google men drink so much coffee, I declare, I think they might drown. Gentrification is here. Oh, one thing I know, you can't stand pat.
I declare you gotta step it up and go.
Gentrification dans Pop 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 sur France Inter, un morceau signé Rycooder, extrait de son dernier album The Prodigal Son. Nous sommes toujours en compagnie de Jack Manini, venu nous présenter Arthur Cravan, sa BD qui vient de sortir chez Grand Angle. Arthur Cravan, un nom bien connu, un des amateurs de surréalisme, de poésie et de boxe, un personnage extraordinaire, vénéré par André Breton, à la vie rocambolesque. Et pour vous, Jack Manini, 2 années de votre vie passées à raconter la sienne dans cette BD absolument magnifique. D'où vous vient cette fascination pour Arthur Cravant?
C'est sa pluralité, en fait, c'est son éclectisme, c'est son côté, et c'est sa totale liberté, à la fois boxeur, poète, neveu d'Oscar Wilde. Il avait énormément de qualités et de
c'était
défauts.
Vraiment le neveu d'Oscar Wilde ou...
C'était véritablement c'était le neveu d'Oscar Wilde. Ouais. Non, ce n'est pas une légende. Il a beaucoup affabulé, mais il y a beaucoup de vrai aussi dans ses affabulations.
Comment vous faites la part des choses, d'ailleurs?
Je ne la fais pas, comme lui.
Donc quand vous m'affirmez ensuite... que c'est le neveu d'Oscar Wilde...
Non, j'ai quand même lu pas mal sur sa vie avant de me lancer dans l'aventure. Et je peux vous affirmer que c'est le neveu d'Oscar Wilde.
Donc 2 ans de travail sur une BD, c'est courant?
Non, c'est pas courant puisque c'est un roman graphique, donc il y a 210 pages. Jusqu'à présent, c'était plutôt des formats standards, 54 ou 46. Mm-hmm. Mais j'avais envie justement de traiter une thématique à fond qui était celle d'Arthur Cravant, qui était un. Aidez-moi.
Mais ça ne me dit pas pourquoi vous avez eu ce coup de foudre pour lui.
Plusieurs choses.
À quelle occasion ?
Déjà, son physique, qui sort du commun, il faisait 2 mètres. Et 105 kilos. Donc, comme je disais, boxeur, comme je disais aussi poète, c'est ce côté éclectique. Mmh. Et voilà.
Ouais. C'est en tombant sur une photo d'Arthur Cravant que vous avez eu l'idée du biopic. Sur cette photo, Arthur Cravant trônait dans un fauteuil avec un chapeau démesuré.
Une tête à la Superman aussi.
Voilà, manteau à poil. Et oui, c'est ça, vous dites la gueule de Superman en plus canaille. Superman en plus canaille, c'est comme ça que vous le voyez?
C'est comme ça que je le vois. C'était aussi un ami d'un de mes peintres préférés qui s'appelait Kees Van Dongen, qui l'a peint en train de boxer. C'est un des seuls peintres qui trouvait grâce à ses yeux, puisqu'il a insulté à peu près tous les autres dans sa revue qui s'appelait Maintenant.
Vous avez beaucoup expliqué, Jack Manini, quand je scénarise, j'ai plus envie de dessiner. Est-ce qu'il fallait vraiment à Arthur Cravant pour vous faire changer d'avis?
Je pense qu'il fallait ce personnage pour me...
Parce que là, vous avez tout fait vous-même.
Parce que là, j'ai fait tout par moi-même.
Qui est habitué à travailler en équipe. Ouais.
La plupart du temps, lorsque je raconte une histoire, la thématique, le scénario, j'ai envie de la raconter, mais je n'ai pas envie de la dessiner. Ce n'est pas la même thématique entre l'histoire, entre le scénario et le dessin. Donc je suis partagé. Et là, il fallait vraiment que je me lance dans l'aventure.
Mais justement, c'est pas compliqué de raconter l'histoire d'un homme qui n'a cessé de faire de son existence une vraie fiction. On n'a pas l'impression d'être un peu dans Inception, parfois. C'est une mission compliquée, quand même.
Si, justement. Et d'ailleurs, au bout de 2 ans, ou tout au moins le temps où je me suis immergé avec Arthur Cravant, j'ai vécu une drôle de vie. J'étais avec lui, j'étais à ses côtés pendant 2 ans, et même ma femme commençait à trouver un peu ce triolisme un peu chaud. Quoi.
Vous appelez monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. Que faites-vous?
Vous êtes allé jusqu'à vous rendre sur les lieux de sa disparition dans le golfe du Mexique?
Pas vraiment, non. Non, non, non.
Vous l'avez suivi de manière littéraire, donc?
J'ai suivi de manière littéraire, oui, tout à fait.
On a l'impression, avec Arthur Cravant, d'un homme et d'un artiste qui voulait faire parler de lui par tous les moyens. Il voulait faire de sa vie une œuvre d'art, avec un véritable génie de la communication. En fait, il est en avance sur tout le monde.
Oui, il est en avance sur tout le monde. Et surtout, il est pluriel. C'est-à-dire que à chaque fois... Il est sincère, mais toujours dans l'imprévu. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quel pied il va danser. On ne sait pas s'il va vous serrer la main, vous donner une grande claque dans le dos ou une grande claque dans la gueule.
Vos premières amours dessinées, vous nous l'avez dit, c'était les comics américains. Est-ce que vous avez retrouvé quelques caractéristiques super-héroïques chez Cravant? Les jeux sur l'identité, les super-pouvoirs, la gueule de Superman, vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, il a tout ça. C'est un super-héros, mais beaucoup plus complexe que les super-héros de mon enfance. Donc, comme je le disais, Arthur Cravant a fondé sa revue à l'âge de 25 ans, dans laquelle il a insulté vraiment tous les artistes de l'époque,
il faisait tout, hein, il l'éditait et il était l'unique rédacteur.
Et il faisait aussi bien les poèmes, il chroniquait, les critiques, etc. Et il avait un grand rival à l'époque qui était Apollinaire. Apollinaire qui aussi était poète, qui était aussi critique d'art et qui aussi avait sa propre revue de culturisme. Donc c'était véritablement, il fallait supplanter Guillaume Apollinaire. Pour ça, il est passé par le biais de son ex-petite copine qui était Marie Laurencin, la peintre. Et dans sa revue, il a insulté Marie Laurencin pour titiller Apollinaire. Si vous voulez,
Apollinaire qui l'a provoqué en duel, du coup.
Apollinaire qui l'a provoqué en duel.
Oui, allez-y, lisez-moi ça.
Marie Laurencin. Voilà ce qu'il écrivait sur elle. Quand je dis, en parlant de Marie Laurencin, en voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse quelque part, je tiens essentiellement qu'on le lise à la lettre. En voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse astronomie au théâtre des variétés.
C'est très, très amusant, Arthur Cravant.
Ah oui, oui. Il y a matière à rigoler.
Oui, il y a beaucoup d'humour chez lui.
Oui. Ouais. Il est toujours dans l'autodérision.
Oui, 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 oui.
Mais il le fait très sérieusement.
Mmh. Mais très gros égo quand même, on a le droit de le dire. C'est beaucoup d'humour, mais un très très gros égo.
Ça dépend de la personnalité du moment et au moment où il agit. Il peut être aussi très, très sensible et très sympathique.
Alors Arthur Cravant, personnage scandaleux, vénéré aussi bien par les dadaïstes que par les surréalistes. Écoutez ce qu'en disait André Breton bien des années plus tard.
Fondée durant la guerre en Amérique, poursuivant maintenant sa publication à Paris, la revue 291, puis 391 de Francis Picabia, a rappelé l'attention sur l'activité d'Arthur Cravant, poète et boxeur, se donnant pour le neveu d'Oscar Wilde, qui aux approches de la guerre éditait la petite revue Maintenant, d'une verdeur de ton inconnue jusqu'à elle.
Moi, c'est juste pour le plaisir d'entendre la voix de Breton.
Oui, c'est marrant, ces vieilles voix comme ça, là, alors, je ne sais pas si c'est dû au micro ou si nos aînés avaient tous cette voix-là.
Ils avaient tous le nez bouché. Non, c'est aussi une manière de s'exprimer. C'est un français extraordinairement maîtrisé, incroyable. On a l'impression qu'il est en train de lire son texte alors qu'il
parle. Grosse culture.
Oui, immense culture. Ouais. Et Breton, parlant d'Arthur Cravant, parlait d'un génie à l'état brut, mais brut sans eux, malgré cette pratique assidue de la boxe. Vous êtes d'accord avec ça?
Je pense que c'était un génie à l'état brut, avec un E. Ceci étant dit, il m'a énormément intéressé parce que justement, il était à la fois capable d'être en quelques secondes d'une intelligence incroyable et la fois d'après, ou quelques secondes plus tard, se comporter comme le dernier des crétins. Mmh. Et ça, c'est assez fabuleux chez cet homme-là. C'était sa liberté qui le conduisait, en fait.
Jack Manini, qu'est-ce que vous avez appris à son contact, au contact d'Arthur Cravant, après ces 2 ans de fréquentation intime?
Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à mieux le connaître, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est assez drôle aussi sur un récit comme ça au long cours, moi qui ai l'habitude de véritablement tout tronçonner ou de tout prévoir dans mes scènes, mes dialogues, là j'étais obligé du coup de, comme une partition de jazz, d'improviser, parce que au fur et à mesure j'avançais, il fallait que je revienne sur les premières scènes. J'ai redessiné à peu près une quarantaine de pages, j'en ai rajouté une cinquantaine, et arrivé au bout du compte, il y a un peu d'improvisation, c'est relativement maîtrisé, je l'espère tout au moins, mais j'arrive à quelque chose qui sort de l'ordinaire, au moins qui sort de mon ordinaire.
Et de l'ordinaire tout court.
Et vous avez aussi appris à son contact la Very Box.
Ah oui,
c'est la Very Box.
Parce que vous êtes boxeur vous-même, hein?
Boxe américaine.
Pratiquer la boxe américaine.
Un peu de boxe française. Mm-hmm. Voilà.
Et c'est quoi la Very Box?
La Very Box, comme je le disais tout à l'heure, c'était une boxe inventée. C'est la boxe qu'a inventée Arthur Cravant. Et si vous voulez, avec Antoine, on va vous faire une petite démonstration radiophonique.
Allons-y.
Parce qu'Antoine, je sais que vous boxez.
Moi, à l'anglaise, malheureusement.
Bah, c'est très bien. On va faire une démonstration en partant de l'anglaise. Vous mettez en garde.
OK.
Voilà. Ouais. Donc Antoine et moi, nous sommes en garde. Vous donnez un direct du gauche.
Ouais.
Vous revenez.
Ouais.
Vous donnez un direct du droit. Vous revenez en mettant votre pouce contre votre nez.
Ouais.
Vous mettez le pouce de votre main gauche contre votre main droite.
C'est à voir sur franceinter.fr. Hein. Ce serait dommage que vous priviez de ça.
Voilà. Et vous papillonnez avec les doigts.
Et ben voilà, j'y suis.
Et voilà. Et ça s'appelle un pied de nez.
Mais oui, mais qui l'emporte là pour l'instant?
Et ben, ça vous permet de vous enfuir éventuellement.
Oui.
Et ça déstabilise l'adversaire.
Je vous ai déstabilisé? Non, pas trop. Merci pour cette formation express, Jack Manini. Dites-moi, on peut dire que Cravant est l'un des plus grands poètes au monde, déjà parce qu'il mesurait plus de 2 mètres, hein.
Ça, je l'ai dit, oui.
Mais cette fois, sous un aspect plus littéraire que physique, voici un extrait d'un texte intitulé André Gide, publié en 1913 dans la revue Maintenant, dont il était l'éditeur et l'unique rédacteur, comme je le disais à l'instant, revue qui connut 5 numéros entre 1912 et 1915. Un mélange de critiques littéraires et artistiques et aussi de provocations. Alors voilà, en quelques lignes, le portrait de Gide par Cravant. Je le cite, ouvrez les guillemets. Monsieur Gide n'a pas l'air d'un enfant d'amour, ni d'un éléphant, ni de plusieurs hommes. Il a l'air d'un artiste, et je lui ferai ce seul compliment, au reste désagréable, que sa petite pluralité provient de ce fait qu'il pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Son ossature n'a rien de remarquable. Ses mains sont celles d'un fainéant, très blanches. Ma foi. Dans l'ensemble, c'est une toute petite nature. Monsieur Gide doit peser dans les 55 kilos et mesurer 1m65 environ. Sa marche trahit un prosateur qui ne pourra jamais faire un vers. Avec ça, l'artiste montre un visage maladif, d'où se détachent, vers les tempes, de petites feuilles de peau plus grandes que des pellicules, inconvénient dont le peuple donne une explication en disant vulgairement de quelqu'un « il pèle ». Fin de citation. C'est parfait ?
C'est parfait. Pour la petite histoire, Gide avait été certainement l'amant d'Oscar Wilde. Mm-hmm. Et à la mort d'Oscar Wilde, il n'avait pas été tendre avec lui. Donc Arthur Cravant se venge gentiment.
Les coulisses.
Vous dites en paraphrasant Johnny, parce qu'on peut citer à la fois Gide de Cravant et Johnny Hallyday, on ne recule devant rien. On a tous quelque chose d'Arthur Cravant. En ce qui me concerne, ce n'est pas extrêmement flagrant, mais quel trait de caractère vous partagez? Alors
je dirais même, on aimerait tous avoir quelque chose d'Arthur Cravant. Voilà. Mm-hmm. Et ce que j'aimerais avoir, c'est sa liberté totale. Et ça serait bien pour la plupart des individus de cette planète.
Et à l'identique, sur ce livre, vous avez assuré, on l'a dit, dessin, scénario, couleur. Couleur dont vous dites qu'elle est un bout de l'histoire aussi. Quelle gamme est-ce que vous avez travaillé pour les aventures de Cravant?
Alors, une mise en couleur, c'est une mise en ambiance. Et j'ai travaillé Arthur Cravant avec des scènes courtes à chaque fois qui se terminent par une petite pirouette. J'avais pas envie de faire un biopic emmerdant. J'ai traité ce biopic comme une histoire inventée. Votre question,
et du coup, pour la couleur, à quel moment couleur,
Donc, à chaque fois, c'est une ambiance qui est forte avec pratiquement une bicro, c'est-à-dire une dominante très marquée, une petite complémentaire pour faire chanter tout ça. Mais en rapport, bien sûr, en éducation, avec la scène traitée.
Arthur Cravant de Jack Manini, c'est édité chez Grand Angle et vous allez découvrir un personnage absolument extraordinaire. Précipitez-vous là-dessus. Jack Manini, vous savez faire ça?
Non.
Ah.
Non, j'ai essayé, c'est comme chanter sous la douche, je ne sais pas.
Moi non plus, je ne sais pas chanter sous la douche. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer les pop news.
Un documentaire consacré au regretté Robin Williams, bientôt sur vos écrans télé. Il s'appelle Come Inside My Mind. Il a été réalisé par Marina Zenovich, qui propose un portrait intime du comédien, légende de la pop culture, à travers les témoignages de ses proches, famille et amis, comme ici, le comédien Steve Martin.
Stand-up is survival. For me, that's jazz. That's what I have to do.
Robin was like nothing I'd ever seen.
He stood out in a way that nobody else did.
I don't tell jokes. I just use characters as a vehicle for me.
Esmeralda, why do you only visit on certain days?
On stage, he was the master.
If you look at a platypus, I think you might think that God might be stoned.
The gods up there in heaven going... Okay, let's take a beaver. Let's put on a duck's bill, okay?
He was really comfortable on stage. Off stage, I just felt he was holding himself together.
Également présent au générique, Zachary Williams, le fils de Robin, ou encore le comédien Billy Crystal, ce documentaire sera diffusé sur HBO.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma des frères Coen, sans jamais oser le demander, se trouve dans Les Frères Coen, 30 ans de films cultes, livre non officiel et non autorisé, et néanmoins recommandé par l'équipe de Pop Pop Pop. Un ouvrage signé Yann Nathan, écrivain et critique de cinéma anglais, rédacteur en chef du magazine Empire. 200% à Ave César en passant par Fargo, Lady Killers, O Brothers et évidemment Le Big Lebowski. Le livre nous emmène dans les coulisses de 17 films cultes. C'est édité chez Gallimard.
Wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. I'm the dude.
Hier se sont déroulés à Broadway, New York, USA, les Tony Awards, c'est-à-dire les Molières locaux, et deux événements majeurs à signaler au cours de la soirée, le premier étant Robert De Niro montant sur scène pour dire ceci.
I'm gonna say one thing, fuck Trump.
Pas besoin de traduction. Des propos censurés à la télé américaine, mais pas australienne, d'où ce que vous venez d'entendre. Et le deuxième événement de la soirée, c'est que De Niro était aussi sur scène pour annoncer un live. Mais de qui ? Bruce Springsteen, récompensé d'un Tony Award spécial pour sa série de shows à Broadway.
Mais c'est légitime.
À guichet fermé.
Mais évidemment.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Ah oui, c'est vrai, c'est vous.
Merci Charline. Jack Manini, ne bougez pas, pop-pop-pop, ça continue. Juste après un morceau du collectif Trash Palace avec Brian Molko et Asia Argento, avec leur reprise de Je t'aime, moi non plus.
Je t'aime, oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh, mon amour,
comme la vague qui a résonné.
Je t'aime, moi non plus, détourné par Trash Palace, autrement dit Brian Molko et Asia Argento. Asia qui nous adressons une fois de plus une pensée affectueuse après les douloureux événements qui viennent d'arriver dans sa vie. Et nous allons continuer à parler de détournement dans la suite de l'émission. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Jack Manini et vient de nous rejoindre Clémentine Mélois. Bonjour Clémentine Mélois.
Bonjour Antoine Decaune.
Les auditeurs de France Culture connaissent votre voix car l'artiste plasticienne que vous êtes participe à l'émission Des Papous dans la tête.
Oui.
Vous y êtes toujours ?
J'y suis toujours.
C'est quand ça ?
C'est le samedi soir.
À quelle heure ?
Je ne sais plus, à 20h. Oh la honte.
Bon,
oh,
c'est, la honte. C'est vers 20h quoi.
Voilà, c'est le soir.
Voilà, c'est le début de soir, c'est très bien. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici, Clémentine. Non, la raison, c'est ce petit livre rouge que je tiens dans les mains et que vous venez de signer et qui est édité chez Grasset. Ça s'appelle Sinon j'oublie. Et c'est une référence aux petits bouts de papier sur lesquels on note les courses à faire, les commissions, comme on dit. Et ce sont ces fameux bouts de papier que vous trouvez dans la rue qui vous servent de point de départ pour imaginer des histoires. J'ai bien résumé ?
Oui, très bien.
Mais quel genre d'histoire imaginez-vous à partir de ces petits bouts de papier ?
En fait, ça fait des années que je collectionne les listes de courses. Chez moi, on dit listes de commissions. Mmh. Et quand j'en trouve une, c'est toujours un miracle parce que je me dis, tiens, celle-là, je ne l'avais pas. Contrairement aux collectionneurs de Panini, de cartes Panini,
il n'y a pas de double,
je ne peux pas faire d'échange. Et à chaque fois, j'essaie d'imaginer la vie de la personne qui l'a écrite. Et en général, on peut reconstituer. On peut voir quelqu'un qui fait un régime, quelqu'un qui va recevoir de la visite, quelqu'un qui va faire un gâteau. Et c'est une pompe à histoire formidable, les listes.
C'est presque le même principe que quand on regarde dans les caddies des gens dans les supermarchés.
Exactement.
On peut retracer le...
C'est ça, c'est vraiment la même chose. Et en plus, il y a la graphie des gens, leur orthographe, leur façon d'organiser les choses. On voit les gens très très maniaques, organisés ou pas, les gens qui barrent. Enfin, je suis un peu zinzin avec ça, mais je trouve ça formidable.
Donc vous jouez autour de l'idée d'ordinaire, de l'ordinaire, plutôt de l'infraordinaire, comme disait très bien Georges Perec,
oui.
C'est ça ?
Oui, c'est exactement cet infraordinaire de Perec dont il parle. Il dit, ce qui intéresse les gens, c'est l'extraordinaire. Un train qui déraille, 5 colonnes à la une, quelque chose d'incroyable qui se passe. Et Perec dit, et je suis assez d'accord avec lui, ça fait un peu tonton Perec, perché sur mon épaule, mais... Interrogez vos petites cuillères, quelles sont nos habitudes, combien il faut de gestes pour composer un numéro de téléphone. Et ce qui m'intéresse en général, c'est les petites choses que les autres regardent pas tellement et que je trouve infiniment plus poétique. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Vous avez d'ailleurs été coopté par Loulipo en juin dernier. Loulipo, c'est l'ouvrage de littérature potentielle créé par Raymond Queneau
et François Le Lyonnais
en 1960. Voilà, une entreprise, si je puis dire, de jeux littéraires. L'humour, d'ailleurs, ça pourrait être le point commun entre Loulipo, Arthur Cravant. Enfin, il y a un point de croisement à un moment.
Certainement. Alors pour Loulipo, il y a la question du jeu qui est importante. On aime jouer, mais c'est une entreprise très sérieuse.
Très sérieuse, évidemment.
Très sérieuse.
Il faut toujours faire gravement des choses légères.
Exactement, parce que c'est beaucoup plus agréable. Mmh. Et puis voilà. Après, effectivement, ça peut être un point commun, c'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de légèreté, mais c'est en abordant les choses graves avec légèreté, je trouve qu'on les touche de façon plus nette. Ça veut rien dire ce que je viens de dire.
Si, j'aime bien, moi.
Ouais.
Trouvez que la... Oui, Jack.
Peut-être inattendu aussi.
Oui, inattendu
bien,
aussi.
Oui, des rapprochements insolites. Ouais. Ouais, ouais.
Vous avez l'impression que la littérature a tendance à se prendre un petit peu au sérieux ?
Alors, je vais m'attirer les foutres si je dis
Allez-y.
Ça. Disons que...
On est entre nous.
Moi, je trouve que on a tendance à imaginer souvent un peu comme le penseur de Rodin, mais la littérature et puis formidable, comme quand on écoute du Mozart avec un casque, on dit, c'est formidable. Et alors pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ça fait vraiment partie de la vie et on peut traiter ce sujet exactement. C'est pour ça, c'est la pop culture en l'occurrence, c'est ça. C'est qu'on peut traiter de sujets classiques avec exactement comme on traiterait de n'importe quoi d'autre.
Est-ce que... Oui.
Vous le disiez, à partir de ces listes, en fait, vous créez une identité à leur propriétaire, vous allez jusqu'à leur trouver un prénom. Vous vous arrêtez où dans l'écriture biographique ?
Alors, les prénoms, je les ai pris parce qu'à chaque fois, j'ai déterminé une date de naissance. Dans le livre, il y a 10 catégories de population. Alors, il a été écrit selon une contrainte d'écriture très stricte. C'est le principe de Loulipo, on écrit d'après contrainte. Donc il y a 10 catégories de population, 10 personnes âgées, 10 jeunes, 10 femmes, 10 hommes. Et à chaque fois, j'ai déterminé un âge et j'ai donné le prénom le plus communément donné cette année-là.
D'accord.
Il y a des sites internet très bien où on voit les prénoms les plus donnés. Après, je me suis inspirée de de gens, de paroles que j'avais entendues. Il y a des gens de ma famille. C'est vraiment, j'essaye de capter. C'est très bien d'aller chez le coiffeur, notamment, pour ça, formidable. On entend des choses très bien.
Enfin, le voilà. Le café aussi.
Comme des brèves de comptoir ou comme. J'aime beaucoup Riyad Satouf qui note, qui fait des dessins en dessinant ce qu'il entend dans la rue. C'est un petit peu la même chose pour ça.
Pour en revenir à vos listes de courses, par exemple, moi ce matin j'ai laissé un mot sur mon frigo avec écrit dessus flageolet, dentifrice, couche confiance et cacolac. Ça vous inspire
vous me la donnerez éventuellement?
Avec plaisir. Formidable. Ah oui, la graphie est importante. Mais a priori comme ça vous inspire ou j'ai une vie trop
alors, déprimante? Redites-moi, couche confiance.
Couche confiance. J'ai retenu que ça. Flageolet, dentifrice et cacolac.
Alors couche confiance, flageolet, dentifrice et cacolac. Alors c'est une vie compliquée. Hein. Mm-hmm. On sent que éventuellement il y a peut-être un problème de lors de la digestion, mais je voudrais pas trop m'avancer. Voilà. Bon.
Il y a une relation de cause et effet entre les aliments ingérés.
Je le crains. Enfin je voilà, ça aussi, fait partie.
Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des listes pour lesquelles vous n'avez pas réussi à trouver de liant en fait? Parce que là, dans les éléments que donne Antoine, vous arrivez à trouver
quoi, mais... Mon Dieu.
Non, mais pour le coup, il y a un motif commun. Mais oui. Est-ce qu'il y a déjà des listes sur lesquelles vous êtes tombé qui vous ont laissé complètement...
Alors non, il y a des listes qui sont plus touchantes que d'autres. Il y en a une qui... J'aime bien quand il y a très peu d'éléments. Il y en a une qui s'appelle... formidable. Il y en a une qui... C'est deux filets d'Arent, D-A-R-E-N-T-S. Et c'est très joli. Une fois, j'ai pu reconstituer. Il y a eu un crime. Je pense que c'était un crime. Il y avait un tapis, une pelle. Il y avait le numéro d'un billet d'avion, d'un vol. J'ai regardé sur Internet. C'était un vol Air France. La personne s'est enfuie au Canada. Ensuite, elle a dû faire le plein d'essence. Je pense que c'était une femme qui a dû tuer son amant, le cacher dans le tapis. Et tout était dans cette liste. Bon, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était possible. En tout cas.
Et à chaque fois, ça donne lieu à de courtes nouvelles?
À chaque fois, j'imagine la voix de la personne qui a écrit la liste. Alors, c'est une fiction, mais...
Des textes qui vont de deux lignes à une page.
Ah d'accord, c'est... À une page, mais c'est la voix de la personne, enfin, telle que je me l'imagine. Il y a toujours un peu le menton qui est derrière, comme si j'imitais cette personne, mais une personne âgée ne parle pas comme une ado, qui dit... moi, dans les Wendy, mon crush, c'est Niall. C'est pas la même chose qu'une dame qui dit « Ah oui, oh ben, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais Claudie, il n'est pas médecin. » Bon, voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de retranscrire dans ces textes.
Vous dites qu'il y a deux catégories d'individus sur cette terre, les jeteurs et les gardeurs. Je suppose que vous êtes plutôt une gardeuse.
Malheureusement, oui.
Ça ressemble à quoi chez vous?
C'est une sorte de... C'est comme la marée en Bretagne. Il y a des algues rejetées. J'essaye de ramasser, mais ça revient toujours. Il y a des livres et des papiers partout, malheureusement.
La pop culture, notre sujet d'étude ici au quotidien, vous l'aimez et vous aimez surtout la détourner. Vous avez écrit 100 titres, un recueil de 100 couvertures de livres remastérisés par vos soins. Dans ce recueil, L'écume des jours de Boris Vian devient Légume des jours. Moby Dick est remplacé par Maudit Bic. Oui. Père et gay, c'est la version 2018 de Tolstoï. Et vous continuez de poster ces couvertures sur votre page Facebook, comme récemment un certain Dante Onc U.
Voilà.
Livre que je ne connaissais pas. Hein, donc ça vous amuse beaucoup toujours de détourner?
Ça m'amuse beaucoup, mais c'est une seconde nature. Je vois pas très clair. Et des fois, mon œil rip et je vois des choses qui m'amusent. Et maintenant, avec les outils de détournement d'images sur ordinateur, ce qui est formidable, c'est qu'on peut donner à voir les fourches langues visuelles qui peuvent advenir. Et ça m'amuse beaucoup, justement, de jouer sur ce côté familier. On connaît les couvertures de livres. Je détourne des couvertures de livres qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des éditions qui datent des années 60, 80. C'est comme une vraie bibliothèque. Mais d'un seul coup, il y a un tout petit décalage qui joue. Et par exemple, Père et Gay, Guerre et Paix de Tolstoï devient Père et Gay, c'est toujours d'actualité. Et ce qui est drôle, c'est d'avoir la tête de Tolstoï en Pléiade.
Ça peut marcher par exemple sur les best-sellers actuels? Ça vous vient à l'esprit tout de suite ou il y a un temps de travail et de détournement?
Un Gilles de la Tourette du détournement de titres.
Vous avez l'air d'être très rapide en fait, on voit que ça va très vite.
Je vous remercie. En fait, ça marche surtout avec les grands classiques parce que ça joue sur une référence commune. C'est aussi un lien de complicité avec les gens qui connaissent les couvertures et qui...
Donc il n'y a pas encore Marc Lévy en fait, pour être tout à fait clair?
Non, il n'y a pas encore Marc Lévy, mais peut-être dans 30 ans, quand il sera en Pléiade.
Quand Marc Lévy sera en Pléiade.
Voilà.
30 ans. Très bien. Dites-moi, je signalais tout à l'heure que vous appartenez à l'Oulipo depuis une petite année maintenant.
Un an pile aujourd'hui.
Un an pile. Et il y a un événement particulier qui arrive avec l'Oulipo ?
À jeudi 14 juin, dans le grand auditorium de la BNF, quai François Mauriac, à 19h tapante, on a les Jeudis de l'Oulipo que j'organise avec Étienne Lécroard. Et c'est une soirée spéciale Mon Lapin Quotidien, qui est un journal publié par l'association qui est magnifique. Noir et blanc, énorme, avec des dessins, des textes. Et donc sur scène, pendant une heure, il y aura du dessin, des lectures. Charles Berberian va dessiner en direct. Patrice Kilofer va faire une démonstration virtuose. Enfin, ça va être formidable et c'est une entrée libre et gratuite.
Très bien. Voilà.
Et vous pouvez laisser vos listes de courses à la sortie, ça peut toujours servir.
Ah, s'il vous plaît, laissez.
Et on a laissé une course dans une boîte à la sortie, et ça sera l'objet.
Non, mettez-les par terre parce que je préfère les trouver.
Ah, pardon, excusez-moi, Clémentine Mélois. Très bien. Clémentine Mélois, Jacques Manini, il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Siri? Mais Siri, mais qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venu vous apporter un pli qui est arrivé samedi.
Ah bon?
Antoine.
Mais tu bosses le week-end, toi?
Je bosse tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Bah, dis donc.
Dans une cave qui est toute humide. Oui. Et en plus, je rouille.
Mais t'es bien le seul à bosser 7 jours sur 7 à France Inter, hein? Regarde-moi, j'avais demandé une étagère au mois d'août, ben elle est arrivée il y a 3 jours.
C'est le service public, Antoine.
Service public. D'ailleurs, à mon avis, ton pli, là, il date de septembre. Hein. Tout est d'une lenteur ici. Tiens, le chantier de rénovation de la maison de la radio, par exemple, il a démarré en janvier. Oui, mais en janvier 2003. C'est lent, ça, non? Hein, tiens, ça faisait longtemps, ça. Allô?
Oui, Antoine, c'est Laurence Bloch.
Oh, Laurence Bloch, chère directrice, c'est gentil de m'appeler, vous allez bien? Mais non, mais...
Elle est en colère, la patronne.
Oui, bon, ça va, allez, donne-moi ton pli, toi. Allez, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dégage, tiens, c'est vu, dégage. Une lettre de Ramon Pipin. Mon cher Antoine, merci de m'avoir prêté ta cave. On a fait un petit bœuf avec les potes des excellents en hommage à Roger Waters qui était en concert à Paris samedi. Écoute le vinyle, c'est sur la face B. Qu'est-ce que c'est que ça?
Yeah. On n'a pas besoin d'éducation. Pas besoin que vous nous disiez ce qu'il faut penser. Oh non. Pas de sarcasme dans la classe. Hey, professeur! Fous la paix aux gamins. Tout qu'on fait, ce n'est qu'une autre brique dans le mur.
Eh ouais.
Tout qu'on fait, ce n'est qu'une autre brique dans le mur.
Wouh! Solo!
Tout qu'on fait, ce n'est qu'une autre brique dans le mur.
Il était bien, mon solo.
Tout qu'on fait, ce n'est qu'une autre brique dans le mur.
Une autre brique dans le mur, c'est un morceau revisité par les excellents pour Pop 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 sur France Inter. Ça vous plaît, ça, Clémentine Mélois, ce genre de détournement
loufoque?
On est content avec ça. Bien. Merci Clémentine Mélois. Sinon, j'oublie, c'est édité chez Grasset. J'invite tous les pop-opiens et toutes les pop-opiennes à aller découvrir votre univers sur votre page Facebook. Et merci Jack Manini, Arthur Cravant. C'est édité chez Grand Angle.
Merci beaucoup.
Merci de votre visite. Demain dans Pop Pop Pop, Denis Podalides. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yov à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos boxe sur YouTube, venez-vous. podcast.
Ça, c'est Booba.
Ah oui, c'est Booba, pardon. Bonjour, Charline Van Hennekeur.
Bonjour, Antoine de Caunes.
Oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans Par Jupiter aujourd'hui?
Nous recevons Antoine Duléry pour de l'opéra, figurez-vous. Ouh, il présente.
C'est bien l'opéra.
Il présente Carmen de Bizet, qui s'est joué dans le festival Opéra en plein air, dans des sites patrimoniaux extraordinaires.
Très bien, merci. On vous retrouve dans un instant, juste après les infos.